présenté ce soir par Emmanuel Grabé. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Londres et Bruxelles s'accordent sur leurs désaccords. C'est la fin du premier cycle des négociations sur la relation d'après-Brexit entre les deux parties. Les problèmes sont sur la table, reste à les régler. Angélique Boin va nous les détailler dès le début de ce journal. Plus de 300 cas et désormais 6 morts en France. Le coronavirus continue de progresser. L'exécutif continue d'apparaître mobilisé. Emmanuel Macron recevait les chercheurs aujourd'hui, tandis que plusieurs ministres abordaient les municipales avec les élus locaux. À suivre aussi l'emploi de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes au cœur de l'audience du procès qui la vise avec son époux. Le déraillement d'un TGV en Alsace ce matin causé par un événement exceptionnel ou un manque de personnel selon les versions. Et puis le volet organique de la réforme des retraites adopté bien plus rapidement que prévu avec un barreau d'honneur des oppositions. Un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est possible pour déterminer leurs relations post-Brexit. Déclaration à la mi-journée du négociateur de Bruxelles, Michel Barnier, à l'issue du premier cycle de discussions. Mais il s'inquiète de sérieuses divergences entre les deux parties, divergences pressenties depuis plusieurs mois, désormais entérinées. C'était tout l'enjeu de ces premières discussions. Angélique Boin ciblait les trois, voire quatre sujets sur lesquels les négociations s'annoncent très très compliquées.
Parmi les points bloquants, il y a toujours l'accès aux eaux britanniques, très poissonneuses. Les Européens sont en position de faiblesse et veulent conditionner l'ouverture de leur marché de 450 millions de consommateurs à un accord général sur le sujet. Pas le Royaume-Uni, c'est une ligne rouge pour le négociateur en chef de l'Union, Michel Barnier.
Le Royaume-Uni ne souhaite pas que l'accord de pêche fasse partie de notre accord économique. Il souhaite négocier en particulier l'accès réciproque des eaux britanniques et des eaux européennes sur une base annuelle, ce qui est... Je me permets de vous le dire comme ancien ministre de la pêche de mon pays, absolument impraticable. Il s'agit d'une centaine d'espèces et ce que nous pouvons faire avec la Norvège sur 5 espèces n'est pas possible sur une centaine d'espèces et pas non plus possible si on veut donner à tous les pêcheurs concernés des deux côtés une lisibilité et une prévisibilité dont ils ont besoin.
Autre divergence, le refus britannique de s'aligner sur les normes européennes en matière de droit du travail, d'environnement, de fiscalité ou encore d'aide d'État. Ils ne veulent pas non plus s'engager à faire trancher les différends par la Cour de justice européenne, regrette Michel Barnier. Enfin, le négociateur met Londres en garde sur la future coopération policière et judiciaire pour lutter contre le terrorisme. Ils sont tout à fait ouverts à l'échange de données, a-t-il expliqué en prenant l'exemple de l'ADN. Mais là encore, les Britanniques ne veulent pas rendre des comptes à la justice européenne en cas de dérapage, or il en va de la protection de nos citoyens, a-t-il insisté. Les prochaines négociations se tiendront alternativement à Londres, puis Bruxelles, toutes les 2 à 3 semaines, avec l'espoir d'aboutir à un accord avant la fin de l'année.
À Bruxelles pour France Culture, Angélique Boin. Après des semaines d'escalade en Syrie, dans la région d'Idleb, où la menace d'un conflit direct entre la Turquie et la Russie n'est pas écartée, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan tentent de jouer l'apaisement. Aujourd'hui, les deux chefs d'État s'entretiennent en ce moment à Moscou. En 2018, déjà, les accords conclus entre les deux présidents pour faire cesser les combats dans cette région et y installer une zone démilitarisée avaient volé en éclats. Après des résultats largement en deçà de ses attentes lors des 14 scrutin d'hier, Elizabeth Warren abandonne à son tour la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Celle dont le programme est très proche de celui de Bernie Sanders n'a pas indiqué pour l'heure qui elle pourrait soutenir. Cela fait des mois qu'il entretient le doute sur une nouvelle candidature à la présidentielle ivoirienne. L'actuel chef d'État, Alassane Ouattara, s'est enfin déclaré à la mi-journée et s'est offert un bel effet de surprise. Il ne se représentera pas en octobre prochain, Mandine Réau.
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
L'annonce a surpris tout le monde, à commencer par les parlementaires. Alassane Ouattara ne briguera pas de 3e mandat. Devant le Congrès, le chef de l'État ivoirien a dressé son bilan après 9 ans au pouvoir. Consolidation de la paix, performance économique, lutte contre le terrorisme. Mais à 78 ans, le président ivoirien appelle au renouvellement.
Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération.
La constitution ivoirienne n'autorise que 2 mandats présidentiels, mais Alassane Ouattara estimait avoir le droit de se représenter en raison de la réforme constitutionnelle de 2016. Ces derniers mois, il avait laissé planer le doute sur une possible candidature. Cette décision prend de court ses 2 rivaux potentiels, les anciens présidents Henri Konan Bédié, 85 ans, et Laurent Gbagbo, 74 ans, en liberté conditionnelle à Bruxelles. Selon le politologue Sylvain Nguessan, l'annonce d'Alassane Ouattara peut apaiser les tensions politiques.
Monsieur Alassane Ouattara cristallise assez de passion pour ses sympathisants et assez de haine aussi de l'autre côté. Le président essaie de soigner un peu sa sortie de la scène politique ivoirienne. À partir du moment où, depuis 1995, il n'y a pas eu encore de passation, de transition pacifique.
Élu en octobre 2010 contre le président sortant Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'a accédé au pouvoir qu'en mai 2011, après une grave crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.
À Abidjan pour France Culture, Amandine Réau. Toutes les régions de France métropolitaine sont désormais touchées par le nouveau coronavirus. C'est ce qui ressort du dernier bilan du ministère de la Santé. Il fait état de 6 morts et 377 personnes contaminées, près d'une centaine de nouveaux cas depuis hier. En attendant le passage au stade épidémique qui semble inévitable, l'exécutif veut montrer qu'il est entièrement mobilisé sur ce dossier. Emmanuel Macron recevait cet après-midi une trentaine de chercheurs en pointe dans la lutte contre ce nouveau virus dont on sait finalement assez peu de choses, et l'une des principales inconnues réside dans sa capacité à muter. Pour le docteur Pascal Crépé, épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, le coronavirus Covid-19 peut muter, mais ce n'est pas forcément une source d'inquiétude.
Oui, il peut muter, mais ce n'est pas forcément une source d'inquiétude. Son matériel génétique est relativement simple, mais ce n'est pas parce qu'il y a des mutations qui se font que forcément le virus va acquérir des capacités différentes et va changer son profil de pathologie qu'il cause chez les cas qui sont affectés. Tout comme la grippe, chaque année, mute tout au long de l'année, les différentes souches virales de grippe mute. Alors ça cause beaucoup de problèmes pour les questions justement d'immunité et puis de composition des vaccins. Mais comme on peut le voir chaque année sur la grippe, les profils des cas et de sévérité des cas changent un petit peu, mais pas radicalement d'une année sur l'autre.
Et par ailleurs, l'arrêté relatif à l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu clos a été publié. Aujourd'hui, il précise que cette mesure est valable jusqu'au 31 mai. Emmanuel Macron avec les chercheurs, alors que de leur côté, plusieurs ministres, éducation, intérieur ou encore cohésion des territoires, recevaient les différentes associations d'élus locaux, au premier rang desquels les maires. Une quarantaine de personnes au total, Sophie Delpont, elles ont évoqué la mise en place des élections municipales dans ce contexte d'épidémie. Coronavirus.
Oui, rassurer les élus locaux, c'était l'objectif notamment de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
Les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars. Il n'y a aucune raison médicale qui justifierait que nous considérions cela comme un rassemblement dans le bureau de vote et qui justifie justement ce report.
Très peu de mesures concrètes, en dehors notamment de préconiser l'établissement d'une distance de sécurité entre les électeurs venus voter.
Dans les bureaux de vote, une distance d'un mètre par exemple à tenir entre deux électeurs qui viendraient voter.
Le vote par procuration serait aussi facilité en élargissant les conditions pour établir une procuration en accord avec le ministère de la Justice, sans plus de précision pour l'instant. Mais à la sortie, François Barouin, le président de l'Association des maires de France, se montre satisfait.
Sur la question du scrutin, je me félicite que le ministre de l'Intérieur ait affirmé que la question n'était pas de savoir si oui ou non, à ce jour, à ce stade, les élections se tiendraient. La démocratie n'a pas de prix, car mettre entre parenthèses la démocratie signifierait mettre entre parenthèses l'activité sociale, économique, bref, considérer que la France est en situation de confinement. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé les propos lus ici ou là, tenus par le président de la République et le Premier ministre, bref, par l'État qui est chargé d'organiser le scrutin, les élections municipales se tiendront.
À propos de l'usage possible du droit de retrait pour les assesseurs et fonctionnaires, François Barouin préconise d'appliquer aux agents une écoute avec compréhension et bienveillance, selon ses mots.
Sophie Delpont, en direct du ministère de la Cohésion des Territoires avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. À l'étranger, face à cette épidémie, Israël et ses 16 cas déclarés et l'autorité palestinienne et ses cas suspects prennent une décision similaire à des degrés différents. Tous les touristes sont désormais interdits d'entrer en Cisjordanie pour 15 jours. Israël, de son côté, cible certaines nationalités sans date de fin. Après les Italiens et les Chinois, les Français, les Allemands, les Autrichiens, les Suisses et les Espagnols seront refoulés à la frontière. Les binationaux ou les résidents en Israël, eux, ont le droit d'entrer dans le pays, mais ils devront passer 15 jours confinés chez eux. Une décision lourde de conséquences pour la ville de Jérusalem, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Frédéric Mettezo.
Alloui.
Dans la communauté franco-israélienne, l'effet des mesures a été immédiat. Ayala Bloom est référente immigrée francophone pour la mairie de Jérusalem.
Un collègue qui a pris des vacances au ski la semaine prochaine, il a tout annulé. Et puis j'ai une jeune collègue qui vient de rentrer de France, qui nous a annoncé qu'elle ne viendra pas travailler pendant 14 jours. Ce matin, un ami m'a dit « J'ai encore plus peur de la catastrophe économique que de la maladie elle-même ».
À l'hôtel Palatine, en plein centre-ville, cette catastrophe économique est en cours, constate Todi Warszawski, le propriétaire.
Aujourd'hui, j'ai déjà eu 6 annulations. Depuis le 1er mars, ces annulations représentent 10 000 euros et notre remplissage a baissé de 19%. Et ça n'est que le début. On a le marathon de Jérusalem, le carnaval de Pourim, des mariages, des cérémonies. Tout ça pourrait être annulé.
Les mesures ont été annoncées il y a 24 heures en direct à la télé par Benjamin Netanyahou lui-même. Mais pour Arad Nir, journaliste renommé de Channel 12, la chaîne la plus regardée, Netanyahou fait d'abord de la politique politicienne.
Il nous détourne de ses problèmes politiques. Il n'a pas de majorité à la Knesset et il nous détourne aussi des difficultés du système de santé depuis des années.
En Cisjordanie voisine, on vient de déclarer les premiers cas. La basilique de la Nativité à Bethléem ferme ses portes pour 2 semaines.
Et on apprend que la compagnie Lufthansa annonce qu'elle suspend tous ses vols vers Israël dès dimanche et pour 3 semaines. L'épidémie de Covid-19 qui pourrait coûter cette année jusqu'à 113 milliards de dollars au secteur du transport aérien. Une situation presque sans précédent selon l'Association internationale du transport aérien. Place aux enfants Fillon dans le procès de leurs parents. Cette nouvelle journée d'audience a été en partie consacrée aux emplois de deux des enfants du couple embauchés par leur père comme collaborateurs au Sénat entre 2005 et 2007. Mais le tribunal s'est surtout penché sur l'emploi de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes. Un moment particulièrement délicat pour elle dans ce procès, Antoine Marette.
C'est sans doute le moment le plus difficile pour Pénélope Fillon dans ce procès. Le plus difficile car son ancien employeur, Marc Ladret de la Charrière, a déjà été condamné dans ce dossier pour abus de biens sociaux dans une procédure de plaidé coupable. Il a reconnu avoir rémunéré Pénélope Fillon de manière excessive, puis fictive. Dès lors, comment défendre la réalité du travail effectué ? Pénélope Fillon évoque tout d'abord son intérêt, sa passion même pour la littérature française. On est en 2012, François Fillon est encore Premier ministre. Il fait part à son ami Marc Ladret de la Charrière du souhait de son épouse de trouver un emploi. Marc Ladret de la Charrière lui crée sur mesure un poste de conseiller littéraire à la Revue des Deux Mondes, dont il est le propriétaire, sans même prévenir le directeur. Pourquoi ce poste ? Selon Pénélope Fillon, il s'inquiète alors de la chute des ventes du périodique et il pense à elle pour trouver des idées originales grâce à son goût pour la littérature, son point de vue étranger et sa non-proximité avec le milieu intellectuel parisien. Cela se concrétise par 4, peut-être 5 rendez-vous en 2012. Là encore, tout est très oral, il n'y a aucun compte-rendu écrit. Et puis il y a bien ces fiches littéraires rédigées par Pénélope Fillon, mais 2 seulement sont publiées sous pseudo et puis plus rien. La présidente veut savoir pourquoi elle a attendu 6 mois pour manifester sa frustration auprès de Marc Ladret de la Charrière. Réponse de l'intéressé, c'est un défaut de caractère, je suis restée trop en attente. Je lui étais reconnaissante parce qu'il m'avait donné du travail, je ne voulais pas me plaindre. Mais se plaindre de quoi ? Certainement pas de son salaire, dont elle reconnaît elle-même la générosité. Un CDI à 3 900 € net par mois.
Journée d'audience suivie par Antoine Marette pour France Culture. C'était la 41e et dernière audition de la commission d'enquête parlementaire créée après la tuerie perpétrée au sein de la préfecture de police de Paris le 3 octobre dernier qui avait fait 4 morts. Commission qui entend faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont pu permettre à un agent de la direction du renseignement de la préfecture d'échapper à la détection des signaux de radicalisation de Michael Harpon, l'assaillant. C'était au tour du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de répondre aux questions des parlementaires aujourd'hui. Et s'il y a unanimité à reconnaître des dysfonctionnements et une faille grave dans ce dossier, Christophe Castaner s'est opposé à la suppression du service de renseignement de la préfecture de police, suppression que préconise la commission parlementaire. Son rapport est attendu courant avril. Deux jours après l'adoption en première lecture du volet principal, le volet organique de la réforme des retraites a été voté à l'Assemblée cet après-midi. Pierre Neveu, bien plus vite que prévu, mais ça n'a pas été sans quelques tensions.
Oui, cet après-midi, les rappels au règlement sont devenus nettement plus tendus lorsque les députés de gauche ont dénoncé un jeu de dupes sentant venir la fin du marathon parlementaire. Et la première salve est venue du député communiste Sébastien Jumel.
On vous laisse ronronner sur ces beaux fauteuils rouges et on considère que les choses sont pliées, soit nous considérons que les choses vont se jouer ailleurs. Elles vont se jouer dans les urnes où il est pronostiqué que vous allez prendre une raclée monumentale.
Plus direct, l'insoumise Clémentine Autain a dénoncé un simulacre de démocratie et a invité ses collègues de gauche à quitter l'hémicycle.
Ça suffit. Et pour reprendre les termes de l'écrivaine Virginie Despentes, nous aussi, on se lève et on se barre.
Le vice-président de séance, Hugues Ranson, a bien tenté de ramener le calme, mais en vain.
Pardon, mais ceux qui ont décidé de quitter l'hémicycle peuvent quitter l'hémicycle, puisque c'est leur choix. Il ne sert à rien de théâtraliser davantage la séance.
N'ayant pas obtenu de vote solennel sur ce projet de loi organique, le député LR Marc Le Fur s'est à son tour emporté.
Il n'y aura pas eu de vote, puisqu'il y a eu le 49-3 sur la loi ordinaire. Il n'y aura pas de vote sur la loi organique. C'est inconcevable, mes chers collègues, absolument inconcevable.
Faute de vote solennel et dans une confusion totale, les députés Les Républicains ont à leur tour quitté l'hémicycle, dénonçant un entre-soi politique. Assumé, leur a répondu Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Il n'y a pas de catimini. Ne venez pas reprocher à la majorité, qui dans son ensemble a été très présente, de ne pas assumer ses votes. Donc je trouve un peu dommage que vous vous livriez au même exercice que celui qui a été livré tout à l'heure. C'est extrêmement dommage.
Et le projet de loi organique qui impose un équilibre financier du futur système de retraite a donc été adopté sans les oppositions de gauche et de droite par 98 voix contre une.
Pierre Neveu. Le parquet de Strasbourg ouvre une enquête pour blessures involontaires. Le gouvernement saisit le bureau enquête accident, le BEA, après le déraillement d'un TGV Strasbourg-Paris ce matin. 22 personnes ont été blessées, dont le conducteur, grièvement. À l'origine de l'accident, un morceau de talus qui s'est affaissé sur la voie. Le train a percuté la masse de terre de plein fouet. Pour le PDG de la compagnie, Jean-Pierre Farandou, c'est un événement exceptionnel qui pourrait être lié aux fortes pluies de ces derniers jours.
C'est pas facile d'anticiper un glissement de terrain de cette nature. Je rappelle que ce talus est surveillé, il est relativement récent. 5 trains sont passés juste avant, voilà, donc il y a vraiment un caractère imprévisible à cet événement. Voilà, donc visuellement on peut l'expliquer parce que comme vous on a vu les photos, là on n'a pas pu se rendre sur les lieux. C'est un talus qui est en pente assez douce, hein. C'est quand même une pente assez douce, il y a une masse de terre effectivement importante, d'une hauteur là aussi qui est très raisonnable. Ce qu'on voit sur la photo, il semblerait que ce talus se soit fissuré par le haut. Hein. Et dès lors, tout a glissé. Toute la masse de terre du haut du talus au bas a glissé, pas très long, pas sur une distance qui est pas très longue. Hein. Peut-être, je sais pas, une dizaine de mètres, mais suffisamment longue pour arriver sur la voie.
Une version différente pour Fabien Villedieu. Il est délégué Sudrail de l'entreprise et pour lui, c'est une nouvelle illustration du manque de personnel dédié à l'entretien et à l'inspection des voies ferrées.
Ça fait quand même écho aux baisses d'effectifs qu'il y a, notamment à réseau, et aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et quelquefois, il faut le dire, de baisse au niveau de vigilance et d'entretien aussi bien des voies que des abords des voies. Il y a besoin d'être humain, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notamment les agents de l'Infra, eux, ils y vont à pied, ils vérifient l'état des voies, l'état des abords des voies, et bon, c'est vrai que des fois, on a beau avoir toute la technologie, la meilleure technologie du monde, ça ne remplacera pas jamais un bon vieux cheminot qui connaît bien les voies, les caténaires, les installations, les problématiques, notamment qui sait que lorsqu'il y a eu énormément de pluie ces derniers temps, il y a des vérifications à faire. Voilà.
Fabien Villedieu qui répondait aux questions d'Hakim Kasmi. Plusieurs milliers de manifestants dans le quartier latin à Paris cet après-midi, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, mais aussi des étudiants en grève contre la future loi de programmation pour la recherche. Elle doit être présentée en conseil des ministres d'ici mai. Le gouvernement a promis de consacrer 3% du PIB à la recherche et d'investir grâce à ce texte de nouveaux moyens sur plusieurs années, mais visiblement les principaux concernés sont sceptiques. Plus de femmes à la radio et à la télévision, mais moins audibles que les hommes. C'est ce qui ressort du rapport annuel du CSA. Il a été rendu public aujourd'hui et il appelle les diffuseurs à faire encore un petit effort pour atteindre la parité. La présence de femmes dans les médias a atteint en 2019 41%. C'est 2 points de plus que l'année précédente. Mais les femmes bénéficient d'un temps de parole plus réduit que les hommes. Pour établir ce constat, le CSA a collaboré avec l'INA. Il a développé des outils d'analyse de fichiers sonores permettant de distinguer les voix masculines des voix féminines. Le résultat, un tiers, deux tiers, un tiers pour les femmes, deux tiers pour les hommes. Un mot de la météo pour demain avec des pluies de nouveau généralisées sur la majeure partie du pays. Les éclaircies concerneront la vallée du Rhône et les bords de la Méditerranée, l'Île-de-France et la Haute-Normandie. Les températures au lever du jour, globalement comprises au nord entre 5 et 7 degrés, au sud entre 6 et 9. Il fera jusqu'à 13 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.